Le gouvernement faisait des préparatifs avec l'armée péruvienne d'ailleurs pour faire face à une éventuelle confrontation avec les Indiens en faisant vraiment des essais en direct devant la population de comment ils allaient tirer sur les Indiens. Ils se préparaient vraiment à une guerre.
Et du coup aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer cette victoire?
La victoire s'explique par le fait qu'il y a eu quand même une grande ténacité de la part des communautés indiennes de l'Amazonie péruvienne. Et d'une part, il y a eu une mobilisation très importante aussi, différents mouvements sociaux au Pérou, et aussi à niveau international, il y a eu un mouvement de solidarité assez fort. Il faut dire aussi que ce qui n'a pas joué à la faveur du gouvernement péruvien, c'est qu'il a légiféré sans prendre compte ses propres engagements, comme le traité qu'il avait signé avec l'Organisation mondiale du travail, qui établit qu'aucune modification de la législation péruvienne est possible sans consulter les communautés intéressées. Dans ces cas-là, le gouvernement péruvien a légiféré sur le destin des millions de Péruviens sans demander l'avis de qui que ce soit. Ils sont allés au-delà de la propre constitution péruvienne, d'ailleurs, qui établit que les terres des communautés indiennes sont intouchables. C'était flagrant, quoi, qu'ils violaient la propre constitution, qu'ils violaient les traités internationaux. Donc, à mon avis, tout ça a fait qu'ils ont dû se plier, quoi, la réalité.
Est-ce qu'on peut prévoir, penser qu'il y aura de nouveaux affrontements comme ça, face à face, entre le gouvernement et les populations indiennes?
Oui, à mon avis, est tout à fait prévisible. Il faudrait qu'effectivement, la communauté péruvienne et internationale soit très en alerte, car le gouvernement péruvien a signé un traité de libre commerce avec les États-Unis, donc il a décidé d'harmoniser les lois péruviennes à ces traités. Si vous voulez, l'ensemble des 102 décrets législatifs qui ont été émis par le gouvernement cette année vise justement à développer une économie mercantiliste et néolibérale. Entre autres, c'est prévu de privatiser l'eau, d'intensifier la privatisation de l'éducation, de la santé. Le gouvernement a décidé de donner la priorité à l'entrée des grosses sociétés au Pérou, de ce qu'on appelle les multinationales, pour prendre en charge le développement économique du pays.
Quelles conséquences auraient eu ces lois, donc permettant l'arrivée, vous l'avez dit, de multinationales sur des terres d'Amazonie occupées par ces Indiens? Quelles conséquences aurait eu cette loi sur les populations indiennes?
Les conséquences, si vous voulez, sont les suivantes. C'est-à-dire que le Pérou, c'est un pays très accidenté. Il y a la cordillère des Andes, donc il n'y a pas beaucoup de terres fertiles. Et la côte est une région assez désertique. Et les très peu de terres qui existent, c'est vrai qu'une bonne partie sont occupées, font partie donc des communautés paysannes indiennes. Donc le projet du gouvernement, c'est toujours, si vous voulez, de développer des grosses exploitations pour introduire des OGM, la production OGM des céréales ou d'autres, la production intensive des arbres pour produire de la cellulose destinée à l'exportation, la production d'agrocarburants. Faciliter la vente des terres des paysans à ces grosses multinationales qui arrivent au Pérou. Et du coup, on allait se trouver avec des populations qui n'auraient aucune ressource pour vivre. Toute la production vivrière locale serait détruite. Et en plus de déposséder aux paysans de leurs ressources terres pour produire les aliments, ça serait vraiment un attentat contre la biodiversité. Et là, on touche non seulement les intérêts des Indiens, on touche les intérêts de toute la planète entière.